Expression.
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 Pluriel. Pluriel.
Expression plurielle.
Expression plurielle.
Et on est au Palabre pour faire de la radio.
Et pas sur mon micro, sur celui-là. Sur celui-là.
Qu'est-ce que ça fait d'être sur la radio ?
C'est génial, je trouve.
Je trouve moi aussi que c'est génial, le fait de se faire interviewer ou d'interviewer les autres. Franchement, j'adore. C'est la première fois que je le fais et j'adore.
Moi, c'est la deuxième fois que je le fais avec Raphaël et c'est encore plus génial que la première fois parce que au lieu que ce soit nous qui allons être interviewés, ça va être les autres. Enfin, nous, on va interviewer d'autres personnes. Et c'est assez intimidant.
Mesdames et messieurs,
Info RC. C'est parti.
Bonjour Marion Boissier.
Bonjour.
Nous sommes sur la radio Info RC à l'école de Baza avec le centre aéré du Palabre. Je suis Raphaël. Je vais commencer à vous poser les questions, puis ensuite, ce sera les autres enfants. Si jamais ils ont des questions, et Clara, Lenny, Iris et Maë font l'enregistrement. Que faites-vous comme métier ?
Alors moi, je fais plusieurs métiers. Il y a une partie de mon travail, je travaille dans un bureau, dans l'association qui s'appelle CIVAM, où là, j'organise des rencontres entre des agriculteurs, agricultrices et des gens qui ne le sont pas. Et il y a une autre partie de mes activités, de mon travail, où je fais moi-même de l'agriculture, c'est-à-dire que je fais du maraîchage et de l'apiculture.
C'est quoi de ferme en ferme ?
Alors, de ferme en ferme, c'est un événement qui est organisé par l'association où je travaille, le CIVAM, et qui va avoir lieu alors, dans plusieurs départements en France, mais notamment dans notre département en Ardèche, le dernier week-end d'avril, donc les 27 et 28 avril. Et c'est donc un événement où on propose aux gens qui ne travaillent pas sur des fermes de venir visiter différentes fermes en Ardèche pour découvrir un petit peu leur manière de travailler, et notamment des fermes qui vont faire ce qu'on appelle de l'agriculture durable. C'est-à-dire qu'ils se considèrent des fois aussi comme paysans et paysannes. Alors ça, des fois, on dit c'est un vieux mot, mais c'est un mot qu'on a envie de remettre un petit peu au goût du jour pour dire que la paysannerie, c'est une manière aussi de faire de l'agriculture qui, on espère, va pouvoir se continuer même s'il y a des difficultés dans le monde, même si on a peut-être plus de pétrole un jour, de réfléchir à des formes d'agriculture qui sont peut-être plus durables. C'est ça qu'on essaye de faire connaître.
Qu'est-ce que c'est maraîchère ?
Alors, maraîchère, c'est quand on produit des légumes, notamment. Je crois, mais c'est vrai que je ne suis pas très bien renseignée, c'est que peut-être ça vient du mot marais, ou à un moment peut-être qu'on cultivait dans les zones de marais, peut-être, enfin des zones un peu humides. Donc on cultive la terre et on fait pousser des légumes.
À quoi ça ressemble dans les ruches ?
À quoi ça ressemble dans les ruches ? À l'intérieur d'une ruche ou sur le rucher ?
Dans la ruche.
Dans la ruche, ouh là là. Alors, dans une ruche comme j'en ai moi, c'est-à-dire que c'est une ruche qui est un petit peu comme un cube, on va dire. Parce que les ruches, en fait, elles existent à l'état sauvage, normalement. Elles existent cachées dans une cime d'arbre, ou des fois, il y en a derrière un volet, ou des choses comme ça. Elles sont bien cachées à l'ombre. Les abeilles, elles aiment pas trop la lumière quand elles sont dans leur maison. Elles vivent plutôt dans des endroits fermés. Donc, la ruche, elle est toute fermée, elle est en bois. Et à l'intérieur de la ruche, il y a ce qu'on appelle des cadres avec des rayons avec de la cire. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Vous voyez ce que c'est, la cire ?
Oui, j'en ai fait dans un voyage scolaire.
Et du coup, dedans, c'est là que c'est la maison des abeilles, en fait, la ruche. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abeilles dans une ruche. Ce qui compose la ruche, donc, il y a le miel qui va être dans la ruche aussi. Il y a aussi du pollen. C'est leurs deux nourritures, le miel et le pollen, aux abeilles. Et après, il y a ce qu'on appelle le couvain. Donc c'est l'endroit, c'est ce que les abeilles, elles vont couver, un peu comme des poules. Elles vont couver les œufs qui sont pondus par la reine pour les élever, pour en faire des larves et ensuite des abeilles. Du coup, il y a tout ça, il y a du couvain, du pollen, du miel, de la cire. Et j'ai oublié, pour fermer tout ça aussi, de la propolis, où ça va être un petit peu leur... elle, c'est à la fois... à la fois un élément de construction et en même temps comme un médicament, la propolis pour elles. C'est leur cordon sanitaire, on va dire. C'est pour qu'elles ne soient pas attaquées par des maladies. Et ça colle très fort.
Avez-vous déjà été piqué, même avec les protections ?
Même avec les protections, oui. Alors, déjà, ça m'arrive de ne pas mettre les gants, des fois, pour pouvoir travailler plus précisément. Parce qu'il y a plein de fois où elles sont très calmes et du coup, elles ne piquent pas. Elles piquent, en fait, quand elles sont, des fois, quand elles se sentent en danger ou alors quand il y a beaucoup de vent aussi ou qu'elles n'ont pas beaucoup de nourriture. Ça peut les mettre en stress et du coup, elles peuvent piquer. Et oui, ça m'est déjà arrivé, sinon, même en ayant toutes mes protections, de me faire piquer parce que j'avais mal... par exemple, j'avais mal fermé le voile, c'est ce qu'on met sur la tête pour pouvoir... Il y a un petit grillage en plastique pour voir à travers et qu'elle ne puisse pas venir dessus. Et du coup, une fois, je ne l'avais pas très bien fermé et du coup, il y en avait une qui avait pu rentrer. Et puis après, elle avait eu peur parce qu'elle était enfermée dans mon voile et du coup, elle m'avait piqué. Ça arrive, oui. Mais sinon, elle pique pas du tout automatiquement parce que c'est dangereux pour elle de piquer. Je sais pas si vous savez, mais
oui, parce que ça, elle meurt parce qu'il y a sa moitié de son abdomen qui part avec.
Exactement. Bah, tu connais déjà pas mal de choses sur les abeilles.
Qu'est-ce qui se passe si les abeilles donnent pas assez de pollen à la reine ?
Alors, à la reine, les abeilles, elles lui donnent pas de pollen. En l'occurrence, elle donne du pollen aux autres abeilles, mais la reine, elle n'a que de la gelée royale. Ça va être ça sa nourriture. Et effectivement, si elle lui en donne pas assez, ça va faire, enfin, une reine qui va pas pouvoir se développer, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, quand elles font le couvain, c'est un peu comme dans un œuf, mais sauf que c'est un peu différent. C'est, elles vont fermer la cellule, et du coup, la reine, elle va avoir toute sa nourriture à l'intérieur de la cellule. Donc là, elles vont plus pouvoir venir lui donner à manger. Et donc elle, c'est ça qui va lui permettre, avec tout son stock de nourriture, de se développer, de grandir. Et la reine est plus grande que les autres. Et du coup, effectivement, s'il n'y a pas assez de nourriture, mais c'est pas le pollen, c'est la gelée royale, si elle n'en a pas assez, elle ne va pas pouvoir se développer et puis naître. Mais en général, elles élèvent plusieurs cellules de reines en même temps. Et quand elles vont naître, les reines, elles vont se battre. Et il va y en avoir qu'une seule qui va rester.
À quoi servent les abeilles pour les plantes ?
Alors, les abeilles, effectivement, nous, en tant qu'humains, on s'est beaucoup intéressé à elles parce qu'elles font du miel et nous, on aime bien le miel. Enfin, on est beaucoup à bien aimer le miel. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup intéressé à elles. Mais en fait, elles existent bien sans nous. Les abeilles, elles n'ont pas besoin de nous normalement pour exister, même si on les a ce qu'on appelle domestiquées. C'est-à-dire on les a fait rentrer dans des boîtes pour que ça nous arrange et pour que ce soit plus facile de travailler avec elles. Mais sinon, dans la nature, en fait, elles font comme toutes les autres bestioles, comme tous les insectes et tout, elles font partie d'un peu ce qu'on appelle un écosystème. C'est-à-dire qu'elles ont leur place dans une boucle, dans l'écosystème, et qu'elles vont permettre, notamment, elles font partie des insectes qui font de la pollinisation. Vous avez entendu ça déjà, le mot ? Donc effectivement, par exemple, on retrouve le mot de pollen que tu me demandais tout à l'heure, qui est une des nourritures des abeilles. Mais en fait, elles, quand elles vont aller butiner une fleur, donc elles vont chercher dans la fleur le nectar, qui est le liquide sucré et odorant. C'est ça qui fait que la fleur, elle sent, c'est le nectar. Elles sont très très attirées par la couleur et l'odeur de la fleur, donc elles y vont. Elles vont prendre le nectar à l'intérieur d'elles, et quand elles y vont, elles vont aussi se frotter aux étamines de la fleur.
Et en le déposant sur une autre, ça va pouvoir faire une autre fleur.
Exactement. En fait, comme elles vont dessus, hop, ça s'accroche à elles. Elles ont des petites pattes avec des petites griffes dessus. Ça fait des petites boules de pollen. Quand elles vont dans une autre fleur, comme tu as dit, ça se mélange. Et en fait, c'est ça qui permet, en fait, comme dans beaucoup de cas d'êtres vivants, la reproduction d'un être vivant va se faire souvent dans la fécondation d'un élément mâle par un élément femelle. Et du coup, dans les fleurs, ça existe aussi. Et donc, c'est par l'intermédiaire du pollen que ça fait cette fécondation. Et du coup, la fécondation, elle va faire un fruit ou on peut dire aussi un légume, par exemple. Donc moi, ça m'intéresse aussi d'avoir mes abeilles pas très loin de mes légumes parce que je vais avoir besoin que les fleurs, elles soient fécondées, donc pollinisées par les abeilles pour ensuite pouvoir avoir des fruits.
Pour planter les légumes, est-ce qu'on peut récupérer les noyaux ou les graines des légumes qui sont pourris ?
Alors, ça, en général, oui. On va dire dans la nature, comme la nature a prévu les choses, évidemment, puisque c'est comme ça qu'elles se reproduisent, les plantes se reproduisent. Mais ça peut arriver que il y a certaines industries qui ont travaillé à fabriquer des graines qu'on va pas pouvoir reproduire, qui vont pouvoir donner juste un fruit une fois. Alors parce qu'ils les ont, en fait, ils sont intervenus dans le cycle naturel de reproduction de la graine pour choisir certaines spécificités de la graine, pour dire oh, on voudrait que le fruit qui sort il soit comme ci ou comme ça, etc. Enfin, ils vont faire des choisir et des croisements. Mais du coup, ça va faire que on va plus pouvoir utiliser les graines. Nous, dans notre agriculture, on va plutôt choisir des graines qu'on peut reproduire. Alors après, il faut faire, dans l'agriculture ou que moi je fais, ou dans l'agriculture aussi que des agriculteurs et agricultrices qui font partie de Ferme en Ferme, par exemple, comme je vous disais, ou avec lesquels on travaille dans mon association. On essaye de faire justement, de se rapprocher plus du cycle naturel des choses. Comme je vous disais, qu'on puisse, sans intervention humaine, continuer à faire du jardin. Et par contre, il faut faire attention à quelque chose quand on récupère les graines, les nôtres, c'est que si on a plusieurs variétés, par exemple, je sais pas si vous avez vu, je vais prendre le plus facile, c'est les tomates. Les tomates, il y a plusieurs, des fois, il y en a, bon, la plupart, on les connaît, elles sont rouges, mais il peut y avoir des grosses tomates, des petites tomates, je sais pas si vous en avez.
Les tomates cerises aussi.
Les tomates cerises, des fois, il y en a des jaunes aussi.
Des noirs.
Des noirs, des verts. Mais en fait, comme on a vu que les abeilles, elles vont faire le lien, enfin, pas que les abeilles, mais tous les pollinisateurs, ils font le lien entre plusieurs fleurs, mais ils peuvent mélanger des fleurs, des fois. Ça peut faire des espèces, après, un peu bizarroïdes. Enfin, nous, ça nous est arrivé sur des courgettes, par exemple, qu'on avait eu un mélange entre une courgette ronde et une courgette longue. Alors, ça faisait une courgette un peu bizarre.
Ovale, à peu près.
Ouais, bah, ça lui faisait comme un peu comme une couronne, et ensuite, elle partait comme ça. Elle était verte et... verte et orange, je crois. Et peut-être même qu'elle s'était mélangée entre des courges et des courgettes. Et bon, c'était un peu bizarre. C'était pas exactement... Donc, on peut les récupérer.
C'est bon, au moins.
Celles-ci, elles étaient pas très, très bonnes.
Ah.
Il vaut mieux... Enfin, en tout cas, on peut faire des expérimentations, mais après, il faut choisir...
Les bonnes.
Oui, et on peut aussi faire attention à choisir les bonnes graines. Et en plus, je vous disais, sur les tomates, c'est pas tout à fait vrai, parce que, en fait, les tomates, c'est dans un cercle très très proche qu'elles vont être fécondées et du coup, elles ne vont pas se mélanger avec des tomates trop trop loin. Elles peuvent se reproduire sur la même plante, les fleurs.
Maintenant, Iris, elle a des questions. Est-ce que c'est difficile de faire pousser des plantes?
Est-ce que c'est difficile? J'ai envie de dire oui et non. Dans le sens non, parce que les plantes elles poussent sans nous, donc ça dépend. Ce qui est difficile, je pense, c'est de faire pousser ce que nous on a envie qu'il pousse. Et ce qui est difficile et qui est de plus en plus difficile, c'est vous avez dû déjà parler et entendre parler du changement climatique
et de la pollution lumineuse.
Et pas que lumineuse, ouais, de la pollution, etc. Et effectivement, il y a de plus en plus de choses qui sont difficiles pour nous de s'adapter. On a acquis des savoir-faire depuis des années sur comment on connaît les plantes et comment elles poussent, etc. Et en fait, là, comme le temps, les saisons, le climat, ils sont tout bouleversés, bah, il y a des savoirs qu'on a du mal à réadapter parce que ça se passe plus comme avant. Du coup, ça, des fois, c'est un peu difficile. Et effectivement, bah, y a de multiples facteurs. Il y a des fois des pesticides. Ça peut être aussi pas terrible pour les légumes et pour les abeilles. Enfin, ça on n'a pas forcément la maîtrise de ça. Et il y a aussi, effectivement, tous ces bouleversements-là. Des fois, il va faire beaucoup, beaucoup de pluie à un moment où, en général, il pleut pas. Ou alors très, très chaud quand, normalement, il est censé pleuvoir. Ou alors très, très froid quand il doit faire chaud. Et là, ça fait que les plantes, elles se sont pas adaptées. Et nous, on sait pas trop comment essayer de pallier à ça. Ça veut dire de faire avec ça. C'est à la fois difficile et pas difficile.
Avez-vous déjà utilisé des pesticides, des produits chimiques, et est-ce que vous les dosez?
Alors, on n'utilise pas de pesticides C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de produits qui vont tuer, par exemple, des insectes. Enfin, pas de manière chimique. Après, ça peut arriver qu'on utilise des produits naturels, par exemple...
Les coccinelles pour les pucerons.
Voilà. Mais du coup, ça, effectivement, elles vont être là. Et nous, on ne va pas forcément les introduire, mais on va favoriser le fait qu'elles puissent se développer. Ou des fois, ce qu'on appelle aussi des purins d'ortie, des choses qu'on va faire à partir d'autres plantes et qui vont soit donner à manger à la plante pour qu'elle se renforce contre des maladies, ou quand même des fois aussi un peu faire fuir, enfin, par exemple sur les pucerons des fois on peut mettre du savon noir et donc c'est pas vraiment un pesticide et c'est naturel, mais ça fait quand même que ça va bien le déranger, il va pas pouvoir s'accrocher sur les plantes. Et donc bien sûr qu'on les dose, enfin, mais pour le coup tous les gens qui utilisent des pesticides, il y a toujours des dosages, des fois c'est très très fort dosé et nous on essaye de, même sur des produits dit naturel, on essaye de faire attention à pas en mettre trop parce que toutes les interventions humaines, en fait, on change quand même quelque chose dans ce que je vous disais tout à l'heure, le cycle de l'écosystème, etc. Toute intervention de notre part, bah, si on amène tout d'un coup beaucoup, même de engrais naturels comme le purin, ça va quand même déséquilibrer tout le milieu, les petites bêtes qui avaient trouvé leur place ensemble. En fait, quand je dis un écosystème, c'est que il y a plein d'êtres vivants et donc de plantes, de bactéries, d'insectes, etc., de vers qui vont faire un petit milieu comme ça et qui vont tous se compléter et qui, parce que ah bah moi j'ai besoin de ça, moi j'ai plutôt besoin de ça, enfin ça va faire comme ça un milieu en équilibre et si nous on rajoute très très fort quelque chose ça peut tout déséquilibrer et ensuite il va falloir toujours essayer de recontrôler, rajouter des trucs, remettre autre chose. Et du coup, il faut faire quand même attention à pas tout bouleverser d'un coup.
Avez-vous déjà voulu quitter votre métier et pourquoi ?
Cette année, j'ai hésité à continuer à m'occuper de mes ruches parce que ça m'a rendu très triste de avoir vu que il y en avait beaucoup qui étaient mortes cet hiver et notamment parce qu'elles s'étaient fait attaquer à l'automne par un prédateur qui est assez récent, qu'on appelle le frelon asiatique. Et cette année, en fait, comme il a fait très chaud jusqu'à tard dans l'automne, le frelon asiatique, il a pu rester, alors que c'est une période où normalement, à l'automne, à l'hiver, tout le monde, les populations d'insectes, elles diminuent. Et les abeilles, elles vont plus rester dans leur ruche, elles sont moins nombreuses. Normalement, les frelons asiatiques aussi, il n'y en a plus l'hiver. Et là, comme il a fait chaud très longtemps, les abeilles, elles continuent à sortir. Eux, ils continuaient à vouloir se nourrir. Et en fait, ils mangent les abeilles. Enfin, ils mangent les abeilles et le miel des abeilles. Et du coup, là, ils étaient très, 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 très nombreux. Et du coup, ils ont fragilisé beaucoup de mes ruches. Et donc ça, à la sortie de l'hiver, c'était vraiment difficile d'en avoir perdu beaucoup. J'étais assez triste et je me suis dit, est-ce que avec mon nouveau travail, parce que le fait de travailler dans l'association, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est depuis pas très longtemps pour moi, est-ce que je vais arriver à bien m'en occuper ? Est-ce que c'est vraiment chouette d'avoir des animaux si je peux pas m'en occuper correctement ? Et ça m'a posé des questions. Mais en même temps, j'ai quand même envie de continuer, parce que il n'y a personne d'autre pour l'instant qui sait s'occuper de mes ruches que moi. Et du coup, je vais continuer à m'occuper de celle-ci. Mais je vais peut-être pas... je me suis dit, cette année, je vais pas en reproduire beaucoup pour pouvoir m'occuper mieux d'un peu moins de ruches.
Avez-vous déjà eu besoin d'aide pour une situation compliquée ?
Dans mon travail ? Oui. Tout le temps. Ouais, tout le temps. Je pense que... Enfin, j'aime bien cette question autour de l'aide parce que, alors, je fais un petit détour par une autre partie de ma vie, c'est qu'à un moment, j'ai aussi participé à écrire une bande dessinée qui réfléchit à la place des femmes dans le milieu agricole. Et on a beaucoup réfléchi sur cette question de... en fait, des fois, quand on est paysan ou paysanne, on nous apprend de nous dire « oui, il faut savoir faire beaucoup de choses, il faut travailler dur, il faut savoir faire tout toute seule ». Et des fois, je me suis dit « mais pourquoi on nous dit que ça, c'est vraiment mieux de savoir faire tout toute seule plutôt que de demander de l'aide ?» Et ça, on a beaucoup réfléchi. Donc, la bande dessinée, on l'a écrite à plusieurs avec d'autres paysannes. Et on s'est dit, nous, en fait, on aime vraiment quand il y a des personnes qui viennent nous aider parce qu'en fait, on le fait à plusieurs. On
et
peut
c'est
aussi
plus
discuter
amusant.
D'autres choses. Et ça, on peut parler aussi du reste de la vie en le faisant. Et on s'est dit, en fait, c'est vrai que des fois, on nous dit, il faut être super fort ou super forte et faire tout toute seule. Mais en fait, pourquoi? Alors, oui, pour des questions des fois économiques, on va dire, ça coûte moins cher une personne que deux. Mais si, en fait, au final, quand on prend plus de plaisir à faire son travail et que si on prend plus de plaisir à le faire à plusieurs, peut-être qu'on pourra le faire plus longtemps aussi. Enfin, voilà, on essaie de réfléchir à ça. Donc, oui, ça m'arrive souvent d'avoir besoin d'aide, et soit de l'aide pour faire des choses physiquement, ou soit de l'aide aussi pour quand, justement, je suis trop triste et mon métier, c'était difficile, j'ai besoin d'aide pour en discuter et pour qu'il y ait des personnes qui me disent « Ok, ça va aller, c'est chouette ce que tu fais, tu vas y arriver. » Enfin, ça, c'est de l'aide aussi.
Comment est-ce que vous avez demandé de l'aide ?
Comment est-ce que j'ai demandé ?
Oui.
Ça dépend, comme ça m'arrive souvent. Il y a des fois, en plus, où je m'en rends compte un peu tard. Et sinon, par exemple, sur le maraîchage, déjà, on est deux à faire le même, être co-référent. Ça veut dire qu'on est référent, donc responsable ensemble de l'activité. Donc ça, on se demande souvent de l'aide. Et après, des fois, on peut demander de l'aide à d'autres personnes aussi, de dire « Ah bah là, on va avoir un gros chantier à faire. » Et par exemple, il va pleuvoir, est-ce que on demande aux amis, aux entourages, aux voisins, qui est-ce qui peut venir nous aider ? Et après, en disant aussi, on peut aussi leur proposer, par exemple, des légumes en échange. Et sur les ruches, je demande à des personnes qui ont pas trop peur des abeilles, par exemple, pour venir m'aider à les déplacer, et qui sont pas trop fatiguées aussi, parce que des fois, on va le faire la nuit pour déplacer les ruches, du coup, ou des gens qui savent conduire, parce qu'on va aussi devoir conduire une voiture. Enfin, et après, comment on demande de l'aide, c'est ça, je pense que... La question, c'était ça ? Ou est-ce que c'était aussi vraiment techniquement comment on demande de l'aide ? C'était à qui on demande ou...
Non, c'était bien.
Ok, ça a répondu à ta question.
Donc, vous avez répondu à la question qui vous a aidé. Mais aussi, pourquoi est-ce que vous le faites de nuit et pas de jour ?
Alors, de déplacer les abeilles, on le fait de nuit parce que la nuit, elles vont être dans leur ruche. Et du coup, si on veut les emmener... Déjà, pourquoi on les déplace ? C'est pour les emmener à un autre endroit où il va y avoir des fleurs qu'elles peuvent manger au moment où on les déplace. Parce que il y a des endroits où il va y avoir des fleurs qu'à un moment de l'année et pas toute l'année. Et du coup, la nuit, elles vont être toutes rentrées. Parce que si on les déplace la journée, en fait, il va y avoir toutes celles qui sont en train d'aller chercher du miel...
Elles vont se perdre.
Et oui, elles sont vadrouilles. Donc si on prend que les abeilles qui sont dans la ruche... les autres, elles vont revenir à l'endroit de leur ruche et il n'y aura plus leur maison. Et du coup, elles vont pas savoir quoi faire. Elles peuvent pas, une abeille, elle peut pas vivre toute seule. Enfin, une abeille qui fait du miel. Parce qu'il y a des abeilles sauvages aussi, elles peuvent. Mais les abeilles avec lesquelles nous, on travaille, elles peuvent pas vivre toutes seules. Donc, on les déplace la nuit pour qu'elles soient toutes rentrées dans leur ruche.
Et à votre avis, quelles sont les saisons pour mieux planter ?
Alors... si tu parles spécifiquement de planter, donc planter, ça va vouloir dire vraiment mettre un plant ou une plante dans la terre pour qu'elle continue à grandir. Souvent, on dit que au printemps, c'est une période qui est assez propice, assez favorable à ça. Après, il y a différentes plantes qu'on peut planter à différents moments de l'année. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qu'on plante vraiment en hiver, mais il y a des choses qu'on sème en hiver. C'est-à-dire, on va semer, ça veut dire mettre la graine dans la terre. Oui. Et ça, des fois, on va les mettre avant l'hiver pour que ça soit en dormance pendant l'hiver dans la terre. Et après, ça va pousser au printemps. Et du coup, pour planter, là, c'est la période où on le fait beaucoup en ce moment. Enfin, on a, par exemple, semé des graines qui vont grandir, qui vont faire des plants. Et après, les plants, on va les planter donc dans la terre ou les repiquer, on dit aussi, dans la terre en ce moment, là, jusqu'en... juin, et après en juillet, on va aussi repiquer en juillet. Donc le printemps et l'été, c'est souvent des périodes où on va plutôt installer les plantes, et après l'été et l'automne et un peu l'hiver, on va plutôt les récolter. On la récolte aussi au printemps, celle qu'on a semée l'hiver d'avant, par exemple.
D'accord. Et est-ce que vous vendez votre miel et où vous le vendez ?
Mon miel, je le vends à plusieurs endroits, et les légumes aussi d'ailleurs. Il y en a une partie qu'on vend dans le bistrot de notre village, pour qu'ils les cuisinent. Il y en a une partie de nos productions qu'on vend aussi dans un magasin de producteurs. C'est un magasin voilà, où il y a que des gens qui produisent qui vont s'associer ensemble. Et après, je le vends aussi mon miel sur un marché. Dans la vallée d'à côté de là où je travaille. Et après, des fois, ça m'arrive aussi d'en vendre sur des événements, des petits marchés, et aussi dans un autre endroit qui est pas très loin de chez moi, bizarrement, c'est une recyclerie, mais des fois, comme je suis bénévole là-bas, des fois, je vends du miel là-bas aussi.
Et avez-vous déjà essayé de faire pousser quelque chose, mais que ça ne marche pas ?
Oui.
Et que ça vous a découragé ?
Ça m'a pas découragé, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et après, ce qui m'encourage, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et de se dire « Ah, pourquoi plein d'autres fois où je l'ai fait, ça avait marché et là, ça marche pas ?» Et du coup, ça, je trouve que c'est assez intéressant d'essayer de faire des hypothèses. Alors, des fois, on est presque sûr de comprendre et des fois, on n'est pas du tout sûr, on comprend pas du tout. Mais je trouve que ça, c'est vraiment intéressant de se dire justement tout le savoir qu'on a acquis sans même s'en rendre compte des fois. Et de se dire, ah, j'ai l'habitude que ça marche. Qu'est-ce qui a changé? Et pourquoi là, ça n'a pas marché? Et du coup, je pense que si ça marchait pas plein de fois de suite, alors que j'avais fait à chaque fois différemment et que j'avais l'impression d'avoir compris quel était le problème, je pense que là, ça pourrait peut-être me décourager. Mais quand ça marche pas une fois... Ou même deux fois, ça ne me décourage pas.
Merci de vos réponses. Maintenant, tout est plus clair. Est-ce que dans le public, il y a d'autres questions ?
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Lequel ? Parce qu'il y en a plusieurs.
De planter et de faire de l'apiculture.
Alors, je pense que, par exemple, l'apiculture, j'avais un modèle dans ma famille, c'est que mon papa, il était apiculteur. Et du coup, des fois, je l'avais aidé quand j'étais enfant, mais je pensais pas faire ça à ce moment-là. Je me posais pas vraiment la question. Je me disais, je l'aide juste et j'aimais bien, en fait, qu'il m'en parle et voir comment il faisait. Et j'aimais bien, surtout, manger le miel. Mais je m'étais pas vraiment posé la question. Et après, j'avais grandi du coup aussi à la campagne, donc j'étais quand même souvent dehors. Et après, j'ai fait des études en ville et ensuite j'ai travaillé en ville. Et au bout d'un moment, je me rendais compte que ça m'allait pas du tout de travailler en ville et que j'avais vraiment besoin de plus construire aussi moi mon emploi du temps j'avais besoin d'être dehors. Et du coup, je pense que le fait... Et j'aime bien les légumes, déjà, aussi. Et donc, le fait de pouvoir voir un petit peu ce moment de semer la graine et de regarder comment ça pousse et ensuite de récolter soi-même, il y avait quelque chose d'assez concret qui me faisait du bien dans voir le travail qu'on fait. Que des fois, quand je travaillais en ville, c'était très, très éloigné le temps de préparer quelque chose et de voir la concrétisation. Et ça, des fois, c'était un peu démotivant, un peu décourageant, justement. Alors que là, le fait de voir l'effet de ce qu'on fait, c'était... je pense que ça me faisait du bien. Et du coup, voilà. Et je pense que le fait de faire et des légumes et du miel, par exemple, c'est que... le miel, c'est que j'aime vraiment bien le rapport avec les animaux abeilles, qui, je trouve, me font réfléchir à comment nous aussi, on fonctionne en tant qu'humains. Enfin, pourquoi comment on a une organisation spécifique de notre société d'humains et que c'est complètement différent des abeilles. Donc ça, j'aime beaucoup comme ça me fait réfléchir sur ça. Et sur les légumes, je pense que ça m'importait de réfléchir à qu'est-ce qu'on mange vraiment et de savoir comment c'est produit et de savoir le produire soi-même et ça c'était quand même c'est toujours super chouette pour moi.
On a terminé l'émission, voulez-vous rajouter quelque chose ?
Non, je vous souhaite... j'espère qu'il y en a d'entre vous à qui ça pourra donner envie peut-être de faire de la paysannerie.
Est-ce que l'interview vous a plu ?
Ben oui, vous aviez super bien préparé vos questions. Vous aviez tous vos rôles apparemment très clairs. Enfin, j'espère que vous aussi, vous vous y êtes retrouvés.
Oui. Au revoir, à bientôt si jamais on se revoit.
Eh ben, avec plaisir et merci beaucoup.
Info RC.
Expression plurielle. Une action soutenue par la préfecture politique de la ville, le département de l'Ardèche, la commune d'Aubenas et la caisse d'allocation familiale.